chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Pour la quatrième chronique d'Un regard et d'une œuvre, j'ai la chance de vous parler aujourd'hui d'une exposition qui est organisée au Musée de la Cité de la Musique jusqu'au 15 janvier et qui a pour titre « Polyphonie de Paul Klee ». J'ai déjà parlé de Paul Klee dans le cadre de cette radio, mais j'en parlais d'une manière tout à fait différente à propos de l'œuvre ultime, comme préparation pour la journée du livre de l'Académie et à propos de l'exposition qu'a organisée l'Orangerie de la collection Ernst Beyeler. Donc, c'était la fin, c'était très caractéristique, mais ça n'a aucun rapport avec l'exposition d'aujourd'hui, qui, elle, se veut beaucoup plus ambitieuse, puisqu'elle cherche à parler de l'inspiration de Paul Klee, et c'est honnêtement ce qu'il y a de plus difficile. Pourquoi le titre « Polyphonie » ? D'abord, il a été choisi par Paul Klee, qui voulait montrer, il a pris un titre musical, et il voulait montrer qu'il accordait beaucoup de choses qui étaient très différentes. Alors, Paul Klee a été à la fois un musicien et un peintre. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Or, ses écrits sont pratiquement pas traduits. Il y a un écrit qui a 3000 pages, qui est intitulé « Théorie de la composition picturale », 3000 feuillets avec un texte et des dessins, et on ne le connaît pas. Et je pense que là, il y a tout un travail à faire. Le travail a commencé à être entrepris et Pierre Boulez, qui adore Paul Klee, en a fait une analyse. Et une analyse intéressante puisque Pierre Boulez est un créateur et un créateur musical. Donc il en parle autrement qu'un critique d'art ou qu'un peintre. Mais il s'arrête devant la couleur. Il dit la couleur trop difficile, j'en parle pas. Et je vois mal comment elle s'accorde à ses théories. Ce qui est un peu gênant puisque Paul Klee a dit « Maintenant je suis peintre, donc j'aime la couleur ». Pour lui, il a mêlé les deux. Alors, il y a toute une analyse, mais qu'au fond, qui ne nous concerne pas vraiment. Alors, si vous voulez, je préfère le déroulement de l'exposition tel qu'il a été défini par la conservatrice, la personne qui a choisi de s'occuper de l'exposition, qui s'appelle Marcella Lisa, commissaire, et qui, elle, a choisi tout à fait une autre approche, beaucoup plus simple pour nous. Elle a montré ses toiles selon le déroulement historique. Ça commence donc 1890-1910, la période où Paul Klee se demande s'il va être peintre ou musicien. Alors, il est très bon musicien, il est musicien professionnel. Son père était professeur de musique, sa mère était cantatrice, et il va être amoureux et épouser une pianiste. Donc, il a vécu, mais vécu même bien avant son mariage dans le milieu musical, et on lui a très souvent proposé de devenir un musicien professionnel. Il interprétait surtout Bach, Mozart, Beethoven et Brahms, mais il était très attaché à la peinture de son temps. Ça, c'est très important. Et il écrivait en 1902 « Il n'y a guère qu'en musique que je n'ai jamais connu d'hésitation ». Vous voyez, il était en même temps critique musical. Et par contre, l'entrée dans le monde de la peinture et de la peinture allemande, il était suisse, mais il va vivre à Munich à partir de 1998, est beaucoup plus difficile. Alors, il réalise un autoportrait qui est superbe, mais qui est placé sous le signe du doute. Il réalise des caricatures pour se voir un peu insolent, parce qu'il ne voulait pas faire ce que font tout à fait les autres. Et dès cette période, il mêle très souvent un musicien avec la musique qu'il joue. Et il y a une série de caricatures, comme le pianiste en détresse, qui définissent déjà son œuvre, mais son œuvre graphique ne faisant pas intervenir la couleur. La couleur, ça sera la deuxième période, 1911-1915, où il vit à Munich, mais il ira beaucoup à Paris, donc il hésite entre l'expressionnisme et la couleur. Alors, il rencontre Kandinsky en 1910, il s'intègre au groupe Blaureiter, avec Franz Marc qui va devenir son ami, Jalensky qui sera aussi son ami, il découvre la musique atonale de Schoenberg, vous voyez, il reste très très polyvalent, et la date importante de cette époque, c'est le jour où il visite l'atelier de Delaunay à Paris en avril 1912. Il est fasciné par la série des fenêtres. Il perçoit que seule la couleur peut conduire tout le mouvement de la peinture. Et il écrit, il dit « La couleur et moi sommes un, je suis peintre ». Et il veut passer du cercle. Le cercle, c'est Delaunay. Et pour ceux qui connaissent mal Delaunay, peut-être qu'avant d'aller voir l'exposition, il faut passer au Musée d'art moderne où il y a un très bel accrochage actuel de Delaunay. et donc passait du cercle à l'échiquier. L'échiquier, c'était lui. Alors, une série donc de tableaux. Alors, bien sûr, toute l'importance de Kandinsky dans cette période. Sa grande amitié avec Franck Marc, qui malheureusement va mourir dans l'armée allemande pendant la guerre de 14. Sa grande amitié aussi avec August Mack. Donc, il est très lié. Et ça, il faut les voir. Je ne sais pas si la série des fenêtres est représentée pour le moment au musée de la ville. Mais il y a des grandes toiles superbes et il a été très impressionné par Delaunay. Et un voyage aussi important, c'est le voyage en Tunisie. Il va aller à Mamet. Il y a une très belle vue d'Hammamet et ce qui justifie ce qu'il disait, la couleur et moi, nous sommes un, je suis peintre. Et déjà, à propos de ces rectangles, il conduit l'architecture avec un très beau tableau de la même période qui s'appelle Carrière. Troisième période, alors ça c'est très intéressant, il est mobilisé dans l'armée allemande, son ami meurt, et là il va travailler beaucoup dans la réflexion sur la peinture, et il veut aller très loin, c'est-à-dire il veut aller au point original de la création, non seulement de la création picturale, mais de la création des mots, de la création de la musique et la création de la couleur. Ça c'est très important, et ça sera une période très riche. D'abord il change un peu sa technique, avec une nouvelle texture en gel d'amidon pour modifier un petit peu sa manière de peindre, et des tableaux qui sont des grands tableaux. Alors, le port d'Hammamet, un tableau qui s'appelle Carrière, et puis surtout, de nouvelles dispositions. Il commence à disposer sa peinture comme un livre. On lit comme un livre, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas. Le titre du tableau est « Ah, comme ma peine est encore exacerbée quand tu ne dédaignes même pas soupçonner les émois de mon cœur », mais ce qui est important, c'est le sens de la lecture, qui n'a rien à voir avec la vision d'un tableau. Donc, encore une fois, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Il s'intéresse aux lettres, et il y a un tableau qui s'appelle « E », « E » comme Ernest, bon, où il y a juste la lettre. Vous voyez que les Américains n'ont rien inventé dans le pop, il s'était déjà intéressé à la lettre, et entouré d'images qui auraient la même consonance que « E ». Il s'intéresse pour la première fois au paysage, avec des sapins de son pays, des sapins noirs et blancs, ainsi que plusieurs points de vue. Il s'intéresse aussi à l'architecture des villes, fenêtres et toits. Et puis, il continue à dessiner beaucoup, bien qu'il est fasciné par la couleur. Et le dernier tableau qu'il faudrait citer de cette période s'appelle, et le titre est très significatif, Dessin au point d'orgue. Vous voyez que la musique est toujours là. Troisième période, alors la grande période, c'est le Bauhaus, où il est professeur. Et il sera professeur de 21 à 29, à la fois à Weimar, et puis ensuite le Bauhaus va ailleurs, et il va à Dessau. Et là, c'est très intéressant parce que ça se voit dans la peinture. Il y a une peinture qu'il faudrait regarder. D'ailleurs, il modifie de nouveau sa manière de peindre. Il s'intéresse beaucoup à l'aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est léger, on peut aller vite. Et on peut passer d'une couleur à l'autre en introduisant plus ou moins de blanc. Et il y a une peinture qui est très intéressante, qui s'appelle « Il s'occupe pour ses élèves de la composition élémentaire », et ses travaux sont en fait des tableaux didactiques, avec des dégradés de couleurs du rouge au noir. Il y a un tableau donc très important c'est la même forme, qui se dégrade peu à peu, on passe du rouge au noir du fond jusqu'au blanc, toute une gamme, et il appelle ça fugue. Tout ça avec l'aquarelle, c'est-à-dire avec un pinceau, une couleur qui est très légère. Il va faire la même chose, qu'il intitule cette fois-ci carrément fugue en rouge, en prenant un objet qui peu à peu est déformé par la couleur, l'objet est rouge, et peu à peu on passe au noir, ou l'objet est blanc, et peu à peu on passe au noir, et tout ça sur un fond blanc. Vous voyez que tout ça, c'est déjà la couleur qui conduit les structures. Et puis des tableaux, ce qui l'intéresse, vous le savez, je l'en ai déjà parlé, c'est l'échiquier. Eh bien, il va rendre sa peinture, quand il peint, il rend sa peinture plus dure, il ajoute une nouvelle texture de gel d'amidon et il va peindre les premiers grands tableaux complètement conduits par la couleur, qui sont des échiquiers, et il va faire des grands échiquiers superbes. Avec une tonalité de fond, mais toujours en carreau, en échiquier noir, et peu à peu, on passe aux couleurs claires. Il y a un blanc, il y a un peu de jaune, il y a un peu de violet intermédiaire, et il refait pratiquement la même chose, toujours en échiquier. Ça s'appelle harmonique quadrilatère en rouge, jaune, bleu, blanc et noir. Et là encore, c'est très intéressant, c'est la couleur qui conduit la géométrie et qui dirige le mouvement. C'est la couleur qui anime le tableau. Et ensuite, il garde la même disposition de damier et il fait un tableau, donc toujours le même rythme. Mais cette fois-ci, il veut l'animer plus. Il appelle ça plantation, ou plus exactement, c'est pas un paysage, c'est le rythme d'une plantation. Vous voyez que dès cette période, dès qu'il est parti, dès qu'il enseigne d'abord au Bauhaus et puis ensuite à Düsseldorf, c'est la couleur qui conduit complètement son œuvre. Alors, 1930-1937, c'est une période trouble. Il va, en 1933, arrive Hitler. Il est renvoyé de l'Académie de Düsseldorf, où il était devenu professeur. Il est renvoyé d'Allemagne. Ses toiles font partie de l'art dégénéré, qui étaient donc les ennemis du régime nazi, et sont montrées comme des toiles à jeter. Bon, eh bien, lui continue ses recherches. Alors, à partir de 1933, il vit à Berne, isolé, sans plus d'élèves, sans plus d'amis, et dans un milieu suisse qui n'est pas tout à fait favorable. Eh bien, il profite de tous ses travaux antérieurs, de tout son travail théorique, pour continuer et sans doute faire le meilleur de son œuvre. Alors, il y a un tableau très important qui s'appelle Pastoral, où il reprend le rythme de la lecture. On lit de gauche à droite et de haut en bas, et chaque ligne a un son, une tonalité qu'on va reprendre peu à peu pour finir par pratiquement un silence. C'est ce qu'on appelle le temps et c'est ce qu'a très bien analysé Boulez. Ça s'appelle pastoral. Donc la même ligne, c'est un thème, c'est une note qui va être la ligne suivante, c'est une autre note. C'est ça la polyphonie. Plusieurs voix parlent en même temps et puis on reprend très souvent la première note et on finit par une sorte de silence, de négatif. Alors, de nouveau, il continue le jeu des échiquiers. Mais cette fois-ci, les bords ne sont plus verticaux et horizontaux. Les bords s'adoucissent quelque peu et il appelle ça en rythme. C'est un jeu du noir et du blanc. Et puis, et c'est vraiment là, c'est très important parce que c'est le meilleur de son art. Le meilleur de son art, c'est quand vraiment la couleur mène complètement la structure. Le fond et la forme sont complètement associés. On ne dissocie plus les deux et chacun des deux a une partition qui va s'accorder à l'autre et il crée, si je peux dire, une nouvelle géométrie. On a vu que c'était la géométrie de l'échiquier. Ça devient aussi une sorte de labyrinthe géométrique qui part du centre, qui est clair, et qui se termine par un foncé à la périphérie. C'est ce qu'il appelle blanc polyphoniquement serti. C'est-à-dire qu'on part du centre blanc pour peu à peu tourner autour de ce carré, entourer le tableau, c'est ce que qu'appelle Serti, et c'est ça la polyphonie. Parce que chaque entourage, chaque bord a une couleur différente. Bon, là vraiment, c'est du Paul Klee pur et personne d'autre n'a fait ça. Il fait ça aussi pour la perspective, dans un tableau qui s'appelle Monument dans la contrée fertile, où il y a en bas un sol, et puis ensuite, on remonte vers le ciel, et même chose, c'est conduit par des jeux de couleurs. Autrement dit, la couleur mène la géométrie, mais l'un et l'autre sont complètement associés. Ensuite, il attaque le triangle. Ça s'appelle géométrie, triangle, pyramide. Il appelle son tableau pyramide. Il a été en Égypte, il a été très inspiré. Et là encore, très souvent, chaque bout de triangle, chaque partie du triangle a une couleur différente. Et tout ça s'associe dans une polyphonie de couleurs. Il attaque même des formules plus compliquées, des formules mathématiques, qu'il appelle groupe polyphonique dynamique, avec des formes qui n'ont plus rien à voir avec la géométrie telle qu'on la décrit. Et puis ensuite, il découvre une sorte de pointillisme. Chaque touche va être un point. Chaque touche va avoir une couleur différente. Chaque touche est peinte à la main. Elle a une forme qui est un tout petit peu différente parce que ces touches sont toutes petites. Et finalement, ces touches entre elles s'accordent pour cerner par quelques traits pour dessiner un paysage. Ça s'appelle Ad Parnassum, merveilleux paysage, avec l'apparition du soleil ou de la lune. Ce sera plutôt le soleil parce que c'est rouge. Et puis un jeu de triangle. Et ce jeu de triangle, ce jeu d'arêtes, se magnifie dans un tableau qui s'appelle « La lumière et les arêtes » et qui entoure le catalogue. Et on voit bien là le détail des petits points qui les constituent, c'est sûrement un des points forts. Et puis, il revient au carré, c'est le retour à la fenêtre avec une sorte d'hommage à Delaunay. Et puis, le grand tableau qui s'appelle Polyphonie, tout court, 1932, donc bien avant sa mort. Cette fois-ci, c'est une véritable polyphonie qui n'est faite que de carrés et de rectangles. Et puis la fin, eh bien, la fin est très glorieuse. La fin, elle est triste, il ne peut plus jouer du violon, c'est un violoniste professionnel. Il ne peut plus jouer du violon, il ne peut plus écouter de la musique. Donc, peu importe, et cette période est très bien intitulée dans l'exposition « Musique sans auditeur ». Car ça reprend une phrase que lui écrivait son ami Franz Marx, qui va mourir pendant la guerre de 14, à propos de Bach. Bach, au fond, n'a pas besoin d'auditeur. Sa musique reste en nous, sa musique est en nous. Et la musique reste dominante dans la fin de Paul Klee avec le timbalier. Le timbalier, c'est une figure superbe, où il y a le trait noir dont j'avais déjà parlé, une tache rouge, et puis on entend, et le reste est clair, on entend le bruit de la timbale. Et en même temps, il crée toute une série au dessin où il mêle le joueur de musique et son instrument. C'est le musicien et l'instrument en noir, dessiné, écrit plutôt, à la plume, sont complètement collés. Et c'est la série qu'on appelle Eidola, avec un dessin admirable qui répond toujours au timbalier, qui s'appelle Force du timbalier. Voilà l'originalité de Klee. Alors, encore une fois, il est inimitable. Il est inimitable. En France, on le connaît mal, parce qu'il était suisse, qu'il a travaillé en Allemagne, très influencé par Delaunay, mais toute l'œuvre est restée vraiment très allemande. Et tant pis pour nous, parce qu'il suffit d'aller à Berne pour le retrouver. Mais allez à l'exposition, vous retrouverez tout son talent. Et je suis sûr, je ne suis pas musicien, mais en regardant l'exposition, j'entendais des notes. Et on ne peut pas ne pas entendre la musique. C'est la raison pour laquelle l'abord musical qu'a adopté ce musée de la Cité de la Musique est essentiel pour comprendre Paul Klee.